La population, Sarah Teto, Antanan Rivou, RFI.
RFI, 4h42 en temps universel, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent.
Afrique Matin sur RFI.
L'actualité internationale et le début de RFI Matin avec Andréane Mélard dans un peu plus de 13 minutes. Mais avant cela, l'une des crises les plus négligées au monde selon les humanitaires, la crise dans l'ouest anglophone du Cameroun pour la suite de notre série de reportages. Quelles conséquences de la coupure de l'aide américaine sur les systèmes alimentaires du continent? On décryptera tout ça avec notre invité, l'ex-premier ministre du Niger, Ibrahim Hassan Mayaki, aujourd'hui envoyé spécial de l'Union africaine pour les systèmes alimentaires. Un vignoble qui tente de se relancer ensuite, mais pas n'importe quel domaine viticole, non, le vignoble d'Assiami, propriété encore aujourd'hui de la famille Bongo au Gabon. Notre dossier Afrique Éco nous emmènera sur place. L'humeur de Maman, il nous dira qu'en très très démocratique république aussi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais d'abord, c'est l'heure des sports. Et c'est avec Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Sébastien.
Du foot avec vous. La trêve internationale s'est ouverte hier, lundi, en Afrique. Les sélections se réunissent et les Lions de l'Atlas accueillent leur champion du Maroc.
Mounir El Khadjoui, gardien numéro 2 de la sélection marocaine, est tout juste auréolé du titre décroché par son club, la Renaissance de Berkane, couronné ce week-end à 5 journées de la fin. Le tout premier titre national de l'histoire du club au terme d'une saison quasi parfaite. 18 victoires, 6 nuls, une seule défaite en Botola League. Un sacre qui récompense un long travail entamé il y a une quinzaine d'années, Mathias Reynal.
De Berkane, on connaissait les oranges. Avec ses milliers d'hectares de vergers, la zone produit désormais des champions. Bader, 25 ans, est un supporter de la première heure du club de Berkane.
Au moment du coup de sifflet final, on a ressenti une joie indescriptible et on en a pleuré. C'est un titre que tout le monde veut avoir au Maroc.
Irrattrapable en championnat, l'officialisation du titre samedi dernier a déclenché des scènes de liesse. Longtemps cantonné aux divisions inférieures, la métamorphose de Berkane commence en 2009 avec l'arrivée d'un nouveau président, Fawzi Lekja, qui lance la modernisation du club. Devenu en 2014 le patron du foot marocain, il investit dans les infrastructures avec un tout nouveau centre de formation. Fawzi Lekja quitte la présidence de Berkane en 2019. L'équipe, elle, engrange les succès. Vainqueur deux fois de la Coupe de la Confédération en 2020 et 2022, le club nourrit de nouvelles ambitions. Moïn Chaabani, le coach tunisien de Berkane.
Aujourd'hui, on est champion, mais pour moi, on n'a pas encore atteint le niveau qu'on doit avoir. Il y a encore des défaillances, des choses à améliorer. On a des défis plus grands qui arrivent. Aujourd'hui, chaque équipe qui va affronter Berkane sera encore plus motivée. Donc, il faut qu'on soit prêt.
Organisation rigoureuse, gestion exemplaire, la stratégie de Berkane paye. Le triplé, championnat, Coupe de la CAF, Coupe du Trône, est désormais à portée de main. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Le Maroc, Antoine, qui disputera les 5e et 6e journées d'éliminatoire de la Coupe du Monde, comme son voisin d'ailleurs l'Algérie.
Des Fenech, premier d'un groupe G encore assez serré, et qui vont affronter le Botswana vendredi, puis le Mozambique 4 jours plus tard. Et le sélectionneur Vladimir Petkovic a fait des choix forts, notamment en décidant du retour du fantasque milieu offensif Youssef Belaïli.
Benacer avait très envie de venir, surtout qu'il était en forme après ses bons débuts avec l'OM. On comptait vraiment sur lui pour les deux matchs éliminatoires à venir. Malheureusement, j'ai appris qu'il avait ressenti une douleur musculaire avant la rencontre face au PSG. Concernant Youssef Belaïli, il est régulièrement performant dans son club actuel, donc j'ai pensé que c'était le bon moment pour l'appeler.
Vladimir Petkovic avec Sofiane Anani, l'Algérie privée donc d'Ismaël Benacer, blessé avec l'OM.
Et au Mali, Antoine, la sélection U23 change de patron.
Et c'est l'ancien capitaine des Aigles, Fousseni Diawara, qui s'assoit sur le banc. Il a un an et demi pour qualifier les U23 maliens pour la CAN de la catégorie.
Le journal des sports, Antoine Grenier sur RFI, on vous retrouve tout à l'heure. Pour le moment, l'une des crises les plus négligées au monde. C'est ainsi que l'ONG NRC, le Conseil norvégien pour les réfugiés, parle de la situation dans l'ouest du Cameroun, en proie à un conflit séparatiste depuis 2017. On poursuit ce matin notre série de reportages débutés hier sur place dans cette région où les anglophones se dressent face au gouvernement camerounais sur cette terre qu'ils ont autoproclamée l'Ambazonie. Un conflit qui laisse des séquelles profondes. Notre envoyée spéciale Amélie Tullet a pu le constater à Mile 14 dans la banlieue de Bouéa. Elle a visité un centre autrefois dédié à la poliomyélite, aujourd'hui reconverti en centre de rééducation. Ils sont pris en charge de véritables blessures de guerre.
Sur une dizaine de machines grinçantes, les pensionnaires du centre géré par le diocèse de Boyard réapprennent à se mouvoir. Rien qu'en 2024, l'équipe de sœurs Hortensia a pris en charge 49 personnes amputées venues des deux régions. Depuis le début de la crise, si vous regardez autour de vous, nous recevons surtout des patients qui ont subi des amputations causées par des tirs, des explosions. D'autres se sont retrouvés bloqués dans leur maison incendiée. Ils ont pu s'enfuir, mais avec des blessures graves qui n'ont pas été traitées à temps et ils ont dû être amputés. Un espace est dédié aux enfants souffrant de malformations, parfois liées au manque de soins pendant la grossesse et à des accouchements précaires. Donner naissance à un enfant dans le bouche, ce n'est pas pareil qu'à l'hôpital. Et avec la pauvreté, certaines femmes enceintes sont mal nourries. Beaucoup de ces enfants arrivent avec leur grand-mère. Quand je demande où est la mère, on me répond « elle est partie ». Beaucoup sont nés de viols, commis par des hommes armés. La fille est violée, donne naissance à l'enfant, l'abandonne et s'en va. Dans une des chambres, sur trois lits côte à côte, trois jeunes filles, Merline, Emmanuela et Cynthia, amputées des deux jambes. Elles sont rescapées de l'attentat de Nkambé, ville du Nord-Ouest, où le 11 février 2024, un engin a explosé lors de la fête de la jeunesse organisée par les autorités. Merline avait 15 ans.
Je suis allée voir le défilé. Nous étions debout sur les côtés pour regarder. Il y avait de la danse. Nous étions là et soudain, nous étions allongés sur le sol. Ils nous ont fabriqué des jambes artificielles. Tous les jours, nous les mettons pour apprendre à marcher avec.
Sur le lit d'à côté, Emmanuela, 17 ans, tire sur le bas de sa robe pour cacher ses cicatrices.
C'était dur à cause de la douleur, mais à présent, ça va. La douleur est partie.
Quand ces filles sont arrivées ici, elles n'avaient plus des visages d'enfants. Elles ressemblaient à des grands-mères. Le soutien post-trauma leur a fait du bien. Depuis, heureusement, elles vont mieux. En fin de journée, un nouveau patient arrive, amputé d'une jambe après une attaque des Amba Boys contre sa ferme. Il a entendu parler du centre de rééducation à la radio et il vient pour une prothèse. Amélie Tulé, de retour de Boya, RFI.
Notre série de reportages dans le sud-ouest du Cameroun. Les deux premiers épisodes sont à retrouver sur Internet et la suite de cette série rare dès demain sur notre antenne. Une trahison et une honte qui risquent de causer d'immenses souffrances. Les mots du rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme en Birmanie, Tom Andrews. Ancien membre démocrate du Congrès américain, il fustigeait ainsi hier la coupure de l'aide américaine dans le monde décidée par Donald Trump. Le chef de l'OMS mettait lui aussi en garde hier. Les coupures de l'aide financière américaine à l'étranger pourraient coûter la vie à des millions de personnes dans le monde. On le voit donc, la décision du président américain continue de faire des vagues. Alors, qu'en est-il en Afrique? Quel impact, notamment de l'arrêt de l'USAID pour la sécurité alimentaire sur le continent? Comment faire face à cet arrêt? Pour répondre, Ibrahim Hassan Mayaki est notre invité ce matin, ex-premier ministre du Niger entre 1997 et l'an 2000. Il est aujourd'hui envoyé spécial de l'Union africaine pour les systèmes alimentaires et pour lui, c'est tout un ensemble de ressources qu'il va désormais falloir mobiliser.
Alors, l'approche système alimentaire, à travers le terme système, met l'accent sur une dimension multisectorielle. C'est-à-dire que pour transformer l'agriculture, on a évidemment besoin d'input, d'intrants. Des engrais. On a besoin de semences, on a besoin de routes rurales, on a besoin de formation, on a besoin de capacités digitales, on a besoin d'énergie, on a besoin de tout un tas de facteurs qui relèvent de secteurs différents. Et c'est la coordination des investissements dans tous ces secteurs qui fait système. Et c'est là que se pose la question en termes de planification.
Le 25 janvier, Donald Trump a décidé de suspendre l'USAID pour 3 mois. Quel est l'impact pour l'Afrique et notamment pour sa sécurité alimentaire?
Le premier signal, et j'en parle depuis quelques années, c'est qu'il est important pour les pays africains d'anticiper sur la disparition de l'aide publique au développement. Et ça entraîne évidemment une mobilisation des ressources nationales. Si nous avons des stratégies de mobilisation de ressources nationales beaucoup plus efficaces, nous serons à même de faire face à ce manque de ressources. Lorsque j'étais Premier ministre, nous avions fait un calcul rapide sur nos recettes douanières et nous nous étions rendus compte que si nous augmentions de 3 points nos recettes douanières, ça pouvait être équivalent quasiment à l'aide publique au développement. Donc nous avons des efforts de gouvernance interne très importants à faire. Donc il faut prendre cela comme un choc, mais ce choc doit être résorbé par la mobilisation de nos ressources internes.
Entretien de Christophe Boisbouvier avec Ibrahim Hassan Mayaki, envoyé spécial de l'Union africaine pour les systèmes alimentaires, à retrouver plus en longueur dans une cinquantaine de minutes.
RFI.
Mais d'ici là, notre rendez-vous avec l'économie africaine qui s'intéresse à un secteur viticole d'un genre particulier. Il nous emmène en effet dans l'un des endroits les plus improbables de la planète pour produire du vin, la région du Haut-Ogooué dans l'est du Gabon, qui abrite un domaine de prestige, un projet qui avait charmé l'ex-président Omar Bongo il y a 20 ans au point de servir ce vin dans les ambassades gabonaises à travers le monde. Il s'appelle le vignoble d'Assiami, toujours détenu par la holding familiale des Bongo, un domaine qui tente aujourd'hui de se relancer et de survivre. François Mazé.
Passé Ngoni, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Franceville, une discrète pancarte indique la piste menant au vignoble du Haut-Ogooué. Lorsqu'il ouvre une bouteille de Malimas rouge pour la dégustation, Vincent Momfumbi pense aux efforts consentis pour produire du vin à l'équateur.
Ah oui, mais les défis sont multiples. Hein. Déjà, le climat, il n'est pas toujours favorable, mais bon, ça c'est pas, il s'adapte. Donc on fait avec les quelques méthodes, les quelques mécanismes que nous avons reçus. On a un peu quand même maîtrisé l'aspect traitement, l'aspect protection. Au départ, il y avait beaucoup de criquets, beaucoup d'insectes qui s'attaquaient aux feuilles et aussi les boutures, et même les bois, eux-mêmes étaient aussi attaqués. Ça occasionnait beaucoup de chutes. On a eu beaucoup de pertes. On a essayé d'apporter quelques traitements pour pouvoir maintenir et contenir les ravageurs.
Présent depuis l'ouverture il y a 20 ans, l'ouvrier viticole a connu les rêves de grandeur vendus à Omar Bongo, les 40 hectares plantés, la centaine de saisonniers mobilisés.
Donc on avait à la base le blanc, le rosé et le rouge. En ce moment, nous essayons de produire le rosé et le rouge. Là, on s'efforce à faire quelque chose de bien. Tout est fait sur place, la récolte, la vinification, l'embouteillage, l'étiquetage, le bouchonnage, tout est fait sur place.
La réalité a rattrapé le vignoble où subsistent moins de 4 hectares de cépage carignan noir et 7 employés pour moins d'un millier de bouteilles par récolte. Appelé à la rescousse en 2018, Cédric Pabou a vu ses projets de relance perturbés par la période Covid, mais il veut croire à la pérennité.
C'est le seul vignoble d'Afrique centrale. Donc les repères, ils sont simplement des années qui filent. On arrive maintenant à faire exprimer la vigne. Il faut passer à l'étape supérieure, c'est le replanting. Puisque la vigne, ici, au Gabon, sous un climat tropical, n'excède pas 15 ou 20 ans grand maximum. Donc l'important, c'est de régénérer tout en replantant tous les 2-3 ans. La relance, ça repassera par le planting, mais aussi par de la diversification, notamment avec la plantation d'arbres fruitiers, peut-être en termes de jus de fruits, peut-être en termes de qualité de vin, pourquoi pas en alcool. Nous voulons rester à la base sur du côté artisanal.
Le directeur du vignoble a noté les discours favorables à la diversification agricole portée par les autorités de la transition. Il espère que cela permettra d'attirer des jeunes Gabonais intéressés par le travail de la terre et par un projet de vie sur les plateaux batéquais. François Mazé, de retour de Franceville, RFI.
5h55 à Paris, avant de retrouver Andréane Mellard pour RFI Matin, l'humeur de Maman. En très très démocratique république, Maman, vous nous dites que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme.
Oui, dans notre beau pays, le hasard est une denrée très très rare. N'écoute donc pas les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile qui se repaissent des tribulations du Gondwanais lambda en but aux difficultés de la vie en très très démocratique république. Dis-toi, cher voyageur en goguette par nos latitudes, dis-toi que tout est à sa place ici. Tout est fidèle aux paroles du chimiste qui disait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Par exemple, tu as dû entendre qu'en très très démocratique république, l'un des sports favoris de notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur, est d'accueillir à Gondwana City, notre belle capitale, de multiples et variés sommets, colloques, rencontres, symposiums, forums et autres conférences au cours desquelles des gens pointus et experts venant des quatre coins du monde échangent à bâtons rompus, pérorent doctement sur des sujets censés prendre à bras le corps le quotidien ardu et le futur incertain du Gondwanais lambda. Et tu sais aussi qu'on ne pousse pas le bouchon jusqu'à imposer au Gondwanais lambda d'assister à ces rencontres de haut niveau. Ah non, on lui mâche le boulot, le soir, dans le journal télévisé qu'il ne regarde jamais. Mais régulièrement, on entend de ci et de là s'élever des protestations, des critiques venant des éternels empêcheurs de tourner et discuter en rond, syndicalistes, mouvements citoyens, activistes, opposants, bref, les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile, quoi, qui répètent leurs mêmes chansons fatigantes et énervantes. À quoi servent ces sommets-là? On dépense de l'argent pour des futilités alors que des gens souffrent. Et patati et patata. Une telle cécité est tout de même incroyable alors qu'il suffit juste d'ouvrir les yeux pour voir l'utilité de ces sommets internationaux. Les jaloux saboteurs ne voient-ils pas que des routes de la capitale sont subitement propres, nuitamment balayées? Ne remarquent-ils pas le calme soudain et souverain qui, depuis quelques jours, enveloppe le centre-ville, opportunément et généreusement débarrassé de ses vendeurs et revendeurs, boutiques et échoppes, mendiants et squatteurs, fermement et militairement déguerpis des trottoirs de la capitale? Ça là, ce n'est rien pour eux. On goudronne les routes, on encomble les trous et nids de poules, on rafraîchit les murs et les façades, on change les ampoules des lampadaires centenaires qui soudain ne souffrent plus de cataractes. Bref, on travaille. Et les visiteurs rentreront chez eux impressionnés d'avoir tenu sommet et conférence dans un si beau pays, puisque si la capitale est aussi belle et propre, c'est que l'intérieur du pays l'est tout autant, toute l'année. Et ces belles cités, avec des villas soudainement sorties de terre pour loger les prestigieux invités et qui se retrouvent ensuite sur le marché, cités qui prennent les noms des sommets internationaux qui les ont vus naître. Ça là, c'est zéro aussi. Donc, arrêtez les calomnies. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. À demain.
À demain, Maman, sur RFI. Merci à Thierry Le Saint qui a réalisé cet Afrique Matin. Pierre Pinto était à la rédaction en chef. Mais surtout, merci à vous, bien sûr, pour votre fidélité à la Radio du Monde. On salue d'ailleurs ce matin Moussa Sekou Camara qui écoute Afrique Matin depuis Nice, sur la Côte d'Azur, en France. Il nous a écrit sur l'adresse afriquematin@rfi.fr. On l'en remercie. Et tout de suite, eh bien, c'est RFI Matin qui débute. Bonjour Andréane Mélard.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. RFI Matin à vos côtés jusqu'à 9h. Et on va parler évidemment ce matin de ces frappes israéliennes menées dans la nuit sur la bande de Gaza. Et avec elles, c'est peut-être la trêve fragile entre l'État hébreu et le Hamas qui vole en éclats. On va tenter d'y voir plus clair dans nos différentes éditions. Au programme aussi ce matin, la situation en RDC. Et puis ce coup de fil très attendu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. C'est aujourd'hui aussi. On va en parler. Bienvenue si vous nous rejoignez dans une minute, le journal.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Guinée, alors que des élections sont censées se tenir cette année, 28 partis politiques sont suspendus pour 3 mois pour ne pas avoir rempli leurs obligations. Parmi eux, le RPG du président déchu Alpha Condé et l'UFR de Sidya Touré. Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
A tout à l'heure sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Danama, en bambara, ça signifie digne de confiance. Et c'est le titre du nouvel album du groupe d'Ethio Jazz français Ahad Kilo. 12 morceaux qui font la part belle à la voix de la chanteuse malienne Mamani Keïta. Ils seront nos invités et nous ferons le cadeau de 2 titres en live.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.